JMJ Cracovie 2016, j'y serai avec le diocèse de Chartres.
Une émission réalisée par l'équipe de préparation des JMJ du diocèse de Chartres avec Simon à la technique.
Bonjour à tous, nous voici à notre troisième rendez-vous pour préparer des JMJ à Cracovie en juillet 2016. Au micro,
Pierre Matisse
et Sarah. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter un petit peu plus la vie de Jean-Paul II, qui est natif de la Pologne. Et ensuite, nous vous parlerons et Anna vous présentera son expérience des Noëls en Pologne. Alors, le pape Jean-Paul II, de son prénom Karol Wojtyla, est né le 18 mai 1920 à Wadowice. C'est une petite ville pauvre qui est située à 50 km au sud-ouest de Cracovie, là où nous serons rassemblés pour les JMJ. Il est le deuxième fils d'Emilia Kaczorowska et de Karol Wojtyla, un officier en retraite. Dès le début, c'est un élève intelligent, brillant, et il montre très tôt une grande attirance pour les études. Après son matura, qui est l'équivalent du baccalauréat, il s'inscrit en 1938 à la faculté des lettres de l'université Jagellon, la plus ancienne et la plus prestigieuse école du pays, pour préparer son certificat de philosophie polonaise, qui est sa passion. À l'époque, il ne songe guère à devenir prêtre. L'année suivante, son frère aîné Édouard, qui vient de terminer ses études de médecine, meurt d'une épidémie de scarlatine à l'hôpital de Bielsko où il est interne. Karol et son père, qui sont venus à s'installer à Cracovie, se retrouvent seuls. L'Allemagne nazie envahit la Pologne en septembre 1939. Tandis que les hommes sont envoyés par milliers dans les camps de travail, l'université Jagellon ferme ses portes et les professeurs sont emmenés en déportation à Zachsenhausen. Pour échapper au camp de travail, Karol s'emploie comme ouvrier dans une carrière de pierre. Il travaille ensuite pour une usine de produits chimiques et il participe aussi à la création du théâtre rhapsodique, une groupe de comédiens clandestins et anti-nazis qui incarne la résistance intellectuelle des étudiants de Cracovie. En 1941, une grave maladie de cœur va emporter le père de Karol. Et au début de 1942, l'université Jagellon rouvre ses portes. Dès le mois d'octobre, Karol s'inscrit au séminaire clandestin de l'université Jagellon, clandestinement. Il suit les cours la nuit en cachette, s'efforçant d'échapper aux rafles allemandes. En 1944, après l'insurrection de Varsovie et la répression qui s'ensuit, le cardinal Sapieha, inquiet pour ses séminaristes, convoque ceux-ci au palais épiscopal, les y cache jusqu'à la fin de la guerre. Le 17 janvier 1945, Cracovie, enfin, est libérée. Ses études de théologie achevées, Karol est ordonné prêtre en 1946, le jour de la Toussaint. Il a 26 ans. Afin de compléter sa formation, le cardinal Sapieha l'envoie à Rome, où il étudie pendant 2 ans à l'Angelicum, l'université théologique dirigée par les Dominicains, devenue aujourd'hui l'université pontificale Saint Thomas d'Aquin. À cette époque, outre le polonais, il parle russe, allemand, français, anglais, connaît un peu l'espagnol et le néerlandais, et bien sûr le latin, le grec et l'hébreu. À son retour à Cracovie, l'abbé Wojtyla est nommé vicaire à Niegowicz, un petit village des environs, puis à Saint-Florian, l'une des paroisses les plus importantes du diocèse. Et sur l'insistance du cardinal Sapieha, le jeune prêtre se présente à l'agrégation. Il commence alors sa carrière de professeur. Après la suppression de la faculté de théologie de l'université de Cracovie, il enseigne l'éthique à l'université catholique de Lublin, avant d'y diriger l'Institut de morale, fonction qu'il assumera de 1956 jusqu'à son élection au pontificat. Autour du professeur Wojtyla, un groupe de jeunes commence à se former. Les séminaires de travail se déroulent au bord des lacs, des rivières ou sur les pistes de montagne.
En juillet 1958, lors d'un périple en kayak, le jeune prêtre apprend que le pape Pie XII vient de le nommer évêque auxiliaire de Cracovie. Consacré le 28 septembre par l'archevêque Eugenius Basiak, il devient, à 38 ans, le plus jeune membre de l'épiscopat polonais. À la mort de Mgr Basiak, 4 ans plus tard, il est élu vicaire capitulaire et administrateur intérimaire du diocèse de Cracovie. Archevêque, Karol est encore bien jeune et Cracovie, comme chacun le sait, est siège cardinalis. Alors, 3 candidats sont présentés, 2 jeunes prêtres appartenant à l'aristocratie et Karol Wojtyla. Les dirigeants polonais, qui n'ont jusqu'alors jamais usé de leur droit de veto pour ce qui concerne les nominations d'évêques, cette fois l'utilisent. Contre les nobles, ils choisissent l'homme du peuple. Le 13 janvier 1964, il n'a pas 44 ans, Karol Wojtyla est nommé archevêque de Cracovie. En fait, le Concile Vatican II a beaucoup pesé sur la décision de Paul VI. En effet, lors des différentes sessions auxquelles il a participé, le jeune évêque a fait, notamment sur le langage de l'Église face à l'incroyance et sur la liberté religieuse, quelques interventions fort remarquées. Il a également beaucoup contribué à l'élaboration de Gaudium et Spes, la constitution conciliaire sur l'Église et le monde moderne. 3 ans plus tard, le 26 juin 1967, Mgr Wojtyla est élevé au cardinalat. Il a 47 ans. De Cracovie, il continue de diriger la chaire d'éthique de l'Université catholique de Lublin. Pour devenir assistant du cardinal, on raconte qu'il faut réunir 3 conditions, être lanti d'un doctorat, connaître les langues et savoir skier. Champion des libertés, le cardinal Wojtyla se montre par ailleurs intransigeant face aux autorités communistes. Il dénonce l'intolérance, réclame le respect des droits de l'homme, la liberté de conscience et le droit à une information non censurée. Il demande l'accès de l'Église aux médias, mène le combat avec fermeté pour l'érection de nouveaux lieux de culte, notamment à Nova Uta. Ses prises de position font de lui un homme aussi populaire que le cardinal Wyszyński. Les dirigeants du pays essayeront d'ailleurs de l'opposer au primat de Pologne afin d'entamer la cohésion de l'Église polonaise, mais sans succès. En 1978, durant l'été, appelé par les deuils successifs qui frappent l'Église, la mort de Paul VI le 6 août, puis celle de Jean-Paul Ier le 28 septembre, le cardinal Wojtyla revient par 3 fois à Rome. Quelques jours seulement avant son élection, pressentant peut-être le choix des cardinaux, Karol Wojtyla a souligné dans une homélie combien est lourde la charge d'évêque de Rome.
Remettez-vous dans l'ambiance de l'élection du pape le 16 octobre 1978. Nous voulions vous faire partager cette atmosphère par la lecture d'un article qui est tiré du journal La Croix, écrit par Bernard Lecomte. Lundi soir, bien avant 18h, une foule nombreuse emplit la place Saint-Pierre. C'est que le matin, les cardinaux n'ont pas respecté l'horaire prévu. La fumée, noire, est arrivée à 11h18, soit avec près de 40 minutes d'avance sur l'horaire du jour précédent. La foule bavarde, s'interroge. Ce conclave est-il aussi difficile que le disent les journaux? Qui va être le pape? Encore une fumée noire. Quand, vers 18h20, le tuyau de la chapelle Sixtine laisse s'échapper un flot de fumée blanche. C'est une immense clameur. Ils ont fait le pape! On applaudit, on s'agglutine autour des transistors pour une confirmation. Le pape est bien élu. Quelques minutes plus tard, la garde suisse prend place devant la basilique, drapeau pontifical en tête, bientôt suivi d'un détachement de carabiniers en grand uniforme, précédé de la musique. Puis ce sont des sections de la marine, de l'armée de l'air, des chasseurs alpins, des douaniers, de la police. On applaudit à nouveau. C'est véritablement la fête pour tout un peuple qui ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Alertés par la radio et la télévision, des flots de gens continuent en effet de converger vers la place Saint-Pierre. Un quart d'heure va encore s'écouler avant que le premier cardinal, diacre, le cardinal Felici, n'apparaisse à la loge centrale de la basilique.
Habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum, sancte Romane ecclesiae cardinalem Wojtyla, qui sibi nomen in possuit Ioannem Paulum secundum.
C'est un silence impressionnant qui se fait avant l'annonce du nom. Charles, cardinal Wojtyla. La surprise est immense. La plupart des assistants n'ont pas compris le nom du nouveau pape. Qui est-ce? C'est un Français? Interroge quelqu'un. C'est un Noir? Demande un autre. Une religieuse qui a amené avec elle le numéro de l'Observatore Romano, où figure la photo de tous les cardinaux entrés en conclave, entoure celle de l'archevêque de Cracovie d'un large trait de crayon. Elle fait circuler l'exemplaire du journal dans le voisinage. C'est un Polonais. Le cardinal Felici a annoncé. Il a choisi pour nom Jean-Paul II. De longs applaudissements ont salué cette assurance de la continuité, cet hommage à un pape que les Romains ont aimé. Longuement, on commente l'événement. Un Polonais est devenu évêque de Rome. C'est la première fois dans l'histoire. Voici 4 siècles que Rome n'a pas eu pour évêque quelqu'un qui ne vienne pas de l'Italie.
Radio Grand Ciel.
Anna fait partie de notre équipe de préparation et d'accompagnement pour notre départ au JMJ. Elle est notre interprète parce qu'elle a vécu son enfance en Pologne. Et elle va témoigner aujourd'hui et nous raconter comment se passe Noël en Pologne. Anna ?
Oui.
Alors, est-ce que tu veux d'abord, tu peux nous raconter une tradition, par exemple, ou quelque chose de particulier à la Pologne pour Noël ?
Oui, par rapport à ce que j'ai vécu en France, ce qu'on vit en France, c'est très particulier, c'est très différent. C'est les jours de Noël, c'est presque comme en France, mais par contre, la veillée de Noël, c'est très très particulier. C'est vraiment une fête familiale où les familles entières se retrouvent, mais vraiment les familles entières. Il n'y a pratiquement personne dans la rue. Dès que la nuit tombe, tout le monde est chez soi. Et on prépare un repas très festif. Et souvent, dans certaines familles, sous la nappe, on met les brins de foin. C'est pour symboliser que Jésus est né dans une mangeoire. Et on prépare une assiette, en fait, un couvert de plus. C'est pour symboliquement marquer qu'on accueille ces soirs-là toutes les personnes qui frapperaient à la porte. C'est un peu comme Jésus, Marie avec Joseph, qui cherchait un abri. Et ce qui est très aussi différent par rapport à la France, au début du repas, on échange le vœu en partageant le pain azimat. C'est un peu comme les hosties qu'on achète avant les fêtes. Et puis on présente le vœu, tout le monde se présente le vœu et on partage le pain azimat. C'est un jour particulier parce qu'on dit aussi que Dieu a porté la paix sur la terre. Et même les gens qui sont des fois fâchés ou qui ne se parlent pas, ces jours-là, ces soirs-là, tout le monde se parle. Des fois, dans certaines familles, on raconte que même les animaux, ils sont presque comme les êtres humains, parce qu'en fait, Dieu, il est venu pour tout le monde. Donc, tout le monde fait la fête, même les animaux. Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire, approximativement, de quoi est composé le repas de Noël ? Est-ce que c'est vraiment différent d'en France ?
Oui, c'est très différent. Et traditionnellement, c'est un repas sans viande. Donc, on prépare dans certaines familles 12 ou 13 plats. Donc, les plats, les entrées, les plats principaux, les desserts, tout est très très abondant. Et puis, ce qu'on dit aussi, qu'il faut goûter à tout, même un tout petit peu, mais pour que l'année prochaine, l'année qui vient, qui suit, soit prospère pour tout le monde. Donc, il faut goûter à chaque plat. Voilà.
Et alors pour terminer, est-ce que tu veux bien nous souhaiter un joyeux Noël en polonais ?
Wesołych Świąt.
Radio Grand Ciel. Pour finir, quelques petites infos. On approche presque de la soixantaine de préinscrits, donc ça fait très plaisir, mais on en attend encore plus, donc continuez à vous inscrire. Ensuite, le 12 décembre, n'oubliez pas qu'on a une rencontre ici à la Visitation à Chartres. Donc ça commencera à 12h30 par un pique-nique et ça se terminera à 18h30 par la messe des jeunes à Rochèvre. Pour finir, l'équipe GMJ aura à Chartres, au marché de Noël, un chalet du 12 au 24 décembre où nous vendrons des produits des JMJ, mais aussi où nous proposerons des cartes de Noël que les jeunes pourront donner à leurs grands-parents ou à leurs parents pour que ceux-ci participent à leur voyage pour les JMJ, et aussi des cartes de parrainage pour que n'importe qui, si vous voulez participer aux JMJ, vous pouvez parrainer des jeunes.
On vous attend tous très nombreux pendant ce marché de Noël du 12 au 24 décembre à Chartres, et on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël.
I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas.